Bien, nous allons reprendre avec un exposé de Marie-Angèle Hermite qui annonce la couleur de façon très nette, l'inutilité de la notion de bien public mondial, le caractère complexe et discutable de cette notion est apparu ce matin, je pense, dans les deux exposés, et là il va réapparaître, mais pour un objet encore différent, puisque c'est la question des droits de propriété intellectuelle en matière pharmaceutique. Merci. Alors, Marie-Angèle Hermite a un problème.
Oui, je vais d'abord vous prier de m'excuser d'avoir une voix de mélécasse ce matin. Je suis en limite d'être à faune. Mais enfin, j'espère que je vais pouvoir continuer jusqu'au bout. Je suis victime de la pollution. J'ai pris un titre un peu provocateur, l'inutilité de la notion de biens publics mondiaux, sachant que je n'adhère pas tout à fait à cette idée d'inutilité. Je pense que c'est un excellent ferment, c'est une manière de mobiliser les énergies, mais en revanche, d'un point de vue pragmatique et efficace, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça paraît, en tout cas à un juriste qui est chargé de faire que les choses puissent exister dans le monde tel qu'il est, pourquoi pour un juriste, la notion telle qu'elle est travaillée à l'heure actuelle par toute la théorie, par toute la doctrine des biens publics mondiaux est extrêmement difficile à accepter ou à utiliser. Et je prends encore une précaution de langage, c'est vous dire que j'ai fait cet exposé en grande partie grâce à une de mes thésardes qui est ici, qui a passé toute la nuit à terminer sa thèse et qui soutiendra sur cette question une thèse le 24 janvier à l'Université de Paris. Donc, merci Amélie. Alors, je vais, avant de rentrer directement dans le domaine des médicaments, il ne me paraît pas inutile d'aborder ce cadre conceptuel général de ce que c'est qu'un bien public et éventuellement un bien public mondial, et des divergences qu'il peut y avoir entre ce qu'ont dit un certain nombre d'économistes surtout, mais aussi de politologues, spécialistes des relations internationales, etc., et ce que le droit a comme expérience de cette très vieille notion de bien public, puisque la notion de bien public est une notion qui remonte au droit romain. Et ce n'est qu'après que je regarderai le thème des médicaments. Alors, la grande qualité que je reconnais à la notion de bien public mondial, c'est une sorte de caractère subversif qui permet de mobiliser des énergies autour de projets communs. Là, moi, je vais vous parler du projet de généralisation de l'utilisation de médicaments qui normalement sont très chers et qu'on arrive à trouver finalement à des prix abordables. Et finalement, c'est quand même grâce à une mobilisation politique qu'on arrive à le faire. Cette catégorie économique est en droit, malgré tout, sans effet évident. Le droit est habitué à manipuler des catégories qui ont au minimum un régime juridique relativement unitaire, c'est-à-dire que lorsque vous parlez des biens meubles, vous avez toute une série de conséquences automatiques qui sont dérivées du fait que vous êtes dans le cadre de la catégorie des biens meubles. C'est la même chose pour les immeubles et pour toute autre catégorie juridique. Alors ça n'empêche pas qu'on ait des sous-catégories et que dans la catégorie des biens meubles, on va avoir les animaux qui vont avoir un régime juridique évidemment différent des boulons ou de tout ce que vous voulez, d'autres qui soient inertes. Mais il y a tout de même un régime juridique commun. Or, dans les biens publics tels que je les ai repérés dans la doctrine économique, je n'ai pas trouvé en droit, on voit bien des points communs en économie, en revanche je n'ai pas trouvé en droit cette unicité de régime juridique qui appelle des solutions communes, même si certaines solutions trouvées sur un point peuvent être parfaitement reproduites sur un autre point. Et si j'ai traité de la question des médicaments et des licences obligatoires en matière de médicaments, qui sont venues perturber assez profondément le droit des brevets, c'est pas seulement dans l'intérêt de la santé, c'est aussi à terme dans l'intérêt de l'environnement. Parce que je suis absolument persuadée que ce système des licences obligatoires qui a été imaginé et institué dans le cadre de la protection de la santé publique va se retrouver, et probablement relativement rapidement, dans le cadre, entre autres, du changement climatique, c'est-à-dire que je suis à peu près persuadée qu'on en viendra à des systèmes de licence obligatoire pour diffuser plus rapidement les technologies propres. Donc, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est aussi le caractère reproductible et le caractère exemplaire de la situation. Alors, voilà les difficultés sémantiques auxquelles je me heurte lorsque je lis la doctrine des biens publics mondiaux telle qu'elle est expliquée par les économistes ou les politologues. On a déjà des appellations qui sont très diverses pour désigner pourtant les mêmes choses, les uns parlant de biens publics mondiaux, globaux, c'est à peu près pareil. Global Commons, déjà la notion de commons est assez différente. Les collective goods, c'est encore assez différent. Les commodities, c'est assez difficile à traduire en français. On parle aussi de domaine public. Donc vous voyez déjà un flottement du vocabulaire pour désigner des choses qui sont toujours un peu identiques et que tout le monde qualifie, y compris les tenants de la doctrine des biens publics, d'auberge espagnole. Alors, l'auberge espagnole, effectivement, puisqu'on trouve dans les biens publics mondiaux la science, aussi bien que le médicament, que la concurrence, dans un certain nombre de cas, que les services publics, l'euro, Jean-Paul Fitoussi, mais l'euro, par exemple, dans les biens publics, européens, pas mondiaux, la santé, la couche d'ozone, la paix, très souvent, la stabilité monétaire, la stabilité des systèmes financiers, la diversité biologique, le génome, les semences. Bon, quel est le point commun entre tout ça? C'est assez difficile à dire. Alors, du point de vue de l'économie, effectivement, il y a une série de caractéristiques communes et il y a ce qui m'a intéressé, moi, mais... Bon, il y a beaucoup d'autres points communs, mais je ne suis pas économiste, je ne vais pas vous en faire la description, je le ferai très mal. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est le fait qu'on reconnaisse généralement qu'il y a une nécessité pour produire ces biens communs d'une action volontariste sous forme de stratégie d'investissement, d'incitation, qui soit destinée à pallier les défaillances de l'État ou les défaillances du marché. Mais en droit, c'est extrêmement déstabilisant pour un juriste parce que ces objets, pour nous, répondent à des catégories juridiques totalement séparées. En effet, pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Donc, très vieille notion, plus de 2000 ans d'âge. Hein. D'abord, c'est une chose. Et donc, déjà, on va avoir des difficultés avec tout ce qui est santé, paix, etc. Ce ne sont pas des choses. À la limite, ça peut donner naissance à des droits fondamentaux, mais en tout cas, ce ne sont pas des choses. Alors, pour nous, ces choses sont obligatoirement appropriables parce qu'il n'y a bien qu'à partir du moment où c'est appropriable. Or, vous voyez bien que la couche d'ozone n'est guère appropriable. Elles peuvent être corporelles ou incorporelles. Et la caractéristique du bien public, c'est qu'il y a derrière une autorité souveraine, une autorité publique souveraine, qui décide librement d'affecter quelque chose à l'usage du public selon des règles d'usage que cette autorité détermine. Donc il faut effectivement une autorité souveraine compétente pour effectuer cet acte d'affectation. Alors, si on était logique pour qu'il y ait un bien public mondial ou des biens publics mondiaux, il faudrait un gouvernement mondial dont les organisations internationales aujourd'hui sont tout de même extrêmement loin. Elles reposent toutes sur une négociation, sur un accord volontaire, c'est-à-dire les sanctions sont très floues, sauf dans des cas extrêmement limités et encore. Et elles ont toujours, chaque État a la possibilité en permanence de sortir du jeu. Si un État n'est pas content de ce qui se passe, il sort du jeu. C'est tout. Donc on n'est vraiment pas dans le schéma d'une autorité publique mondiale, même en cours de constitution, même préfiguration. Je ne suis déjà pas sûre d'être d'accord avec moi-même lorsque je parle de préfiguration. En revanche, cette idée qu'il faut une autorité et du politique, eh bien, c'est très curieusement ce qu'on retrouve dans la conclusion du petit article de Samuelson de 1954, qui avait été, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, l'article qui a lancé l'idée de bien public. Et cet article se termine par la nécessité de refaire de l'économie politique au sens traditionnel du terme. Donc, pour préciser un petit peu le malaise juridique vis-à-vis de ces biens publics mondiaux, je vais essayer de préciser un petit peu les choses. Donc, parmi les biens publics mondiaux que je vous ai cités tout à l'heure, on trouve des tas de concepts du type paix, éducation, stabilité monétaire, santé, etc. Et là, à mon avis, et d'ailleurs, bon, la doctrine le dit, mais ça n'a pas l'air de la gêner, on est là dans la recherche du bien, c'est-à-dire du bien par rapport à du mal. Mais on n'est pas là dans la contemplation d'un bien. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui me gêne, parce qu'on ne peut pas rechercher un bien comme on peut réfléchir au statut juridique d'un bien au sens corporel ou incorporel. Donc, ce bien qui ressemble beaucoup au vieux bien commun, si vous voulez, n'a rien à voir ni avec les biens ni avec les choses. Il implique simplement un sentiment d'une communauté de destin. Et alors ça, je crois que le cas du sida et des médicaments que je vais développer aujourd'hui est assez bien illustratif de la montée au cours des années 1998-2000 de ce sentiment d'une communauté de destin mondiale autour des malades du sida. Et des associations comme ACT UP, par exemple, ont joué un rôle, me semble-t-il, important en rappelant, par exemple, à chaque SIDAction en France que ben, il n'y avait pas que les malades français, il y avait aussi tous les autres. Et donc là, il y a vraiment la création, par la répétition verbale, comme ça, du sentiment d'une communauté de destin. Et alors, bon, j'ai les autres biens publics que je trouve chez les économistes, qui sont pour le coup des choses, du point de vue du droit, telles que la couche d'ozone. Mais alors la couche d'ozone, qu'est-ce que c'est du point de vue du droit? Ou l'atmosphère, hein, c'est la même chose. C'est une chose qui était jusqu'à peu de temps en dehors du droit, et que le pacte de Montréal permet d'attraire dans le droit. Même chose pour l'atmosphère. Avant les premières conventions internationales sur les pollutions atmosphériques, et plus encore la convention sur le changement climatique, c'était en dehors du droit, on faisait ce qu'on voulait. Et progressivement, ces choses sont amenées par des décisions des conventions internationales au statut de ce qu'on appelle en droit une chose commune, c'est-à-dire chose inappropriable. On ne va pas s'approprier la couche d'ozone ou l'atmosphère. Donc, chose inappropriable, affectée à l'usage de tous, dans le cadre des règles qui en déterminent l'usage. Hein, c'est ça qui est important, c'est qu'on passe du hors-droit à l'ordre juridique à partir du moment où il existe des règles d'usage. Donc, si vous voulez, les États-Unis, dans la mesure où ils sont en dehors du protocole de Kyoto et où ils n'ont donc pas accepté les règles d'usage, sont toujours dans la communauté, si j'ose dire, sauvage, la communauté en dehors du droit, alors que les pays, y compris, évidemment, les pays comme la Chine, etc., qui n'ont pas d'obligation, mais qui sont dans la communauté de ceux qui ont négocié les contraintes, sont dans la communauté policée par le droit. Je raisonne là toujours en termes juridiques. La diversité biologique, c'est tout à fait autre chose. Parce que la diversité biologique globale, malgré la Convention sur la diversité biologique, eh bien, elle n'existe pas vraiment. La seule chose qui existe, ce sont les diversités biologiques des États qui sont sous souveraineté étatique. Donc ce sont effectivement les ressources biologiques formant tout ensemble la diversité biologique générale de la planète. Ces ressources biologiques sont des biens publics, alors ça au sens tout à fait classique juridique, avec une double qualification bien public patrimoine des États qui introduit un petit peu de flou dans la notion, mais ce ne sont pas des choses communes, ce ne sont pas des biens publics mondiaux. Et vous avez un troisième exemple qui est toujours donné dans les biens publics mondiaux, qui sont les médicaments. Alors là, le problème vient précisément du fait que ce ne sont pas des biens publics, mais des biens couverts par un droit exclusif temporaire pour les médicaments brevetés et qui passent dans ce qu'on appelle le domaine public, qui est encore une notion un petit peu différente, notion qu'il faut appréhender avec précision dans la mesure où il existe deux domaines publics en droit, celui qui est dans l'ordre de la souveraineté et qui donne naissance aux biens publics comme les rivages, à Rome c'était les marchés, les murailles des villes, etc., donc tous ces biens publics, et avec un sens complètement différent dans le cadre de la propriété intellectuelle, puisque lorsque le brevet est expiré, l'invention, on dit, tombe dans le domaine public, et en fait, ce domaine public est une chose commune mondiale, c'est-à-dire tout le monde y a accès librement, et là, d'une certaine manière, il n'y a même pas de règle d'usage de cet accès. Il y aurait au plus une règle implicite selon laquelle on ne peut pas se réapproprier privativement le domaine public issu de la propriété industrielle. Et je dis au passage qu'on a perdu dans les années récentes le concept de patrimoine commun de l'humanité, qui continue d'exister de manière très marginale, mais qui a été en fait remplacé dans tous les textes actifs par une notion en deçà, qui est celle de préoccupation commune de l'humanité, et qui rejoint en fait assez bien celle de bien public mondial, c'est-à-dire c'est cette préoccupation commune qui va mobiliser les énergies pour produire des décisions. Et donc, cette préoccupation commune de l'humanité, qui est un concept très flou, assez décevant par rapport au patrimoine commun de l'humanité, a cette même valeur, si vous voulez, de ferment mobilisateur qu'a le bien public mondial tel qu'il est utilisé par ailleurs. Ceci dit, c'est une volonté politique sans sujet stable, puisqu'il n'y a plus cette émergence possible d'un sujet de droit qui s'appellerait l'humanité. On est obligé à chaque fois de négocier entre les États parties. On a toujours des gens qui sont en dehors et des gens qui sont en dedans. Donc, on a quelque chose qui est instable et qui est négocié au cas par cas, en fonction des intérêts de chacun et de la perception de ce destin commun qui se fait ou qui ne se fait pas, selon les cas. Alors, ce qu'il y a pourtant de très marquant dans les conventions internationales les plus récentes, et en particulier la Convention sur le changement climatique et l'accord de Doha sur les médicaments, c'est qu'il y a obligatoirement, parce que ce sont des textes complexes à mettre en œuvre, très complexes à mettre en œuvre, et donc il y a obligatoirement création d'une administration. Parce qu'on tombe dans une sorte de... On tombe ou on monte, plus exactement, du néant, de l'inexistant, vers une police, par exemple, dans la Convention sur le changement climatique, c'est très évident, on a désormais une police de l'atmosphère qui est en formation, qui n'est pas très efficace, qui est tout ce que vous voulez, mais on est déjà dans l'ordre de la police, alors la police au sens ancien du terme, hein, au sens d'administration, avec quand même des contrôles, des sanctions, et tout un mécanisme très complexe d'accréditation des unités, des crédits, etc. Et pour ça, il faut une police pour gérer toutes ces unités de compte. Bon, à chaque fois, on est dans l'ordre de biens non souverains, comme l'avait fait remarquer Bertrand Badie en 2001. On est toujours, je le répète, dans une souveraineté purement contractuelle de la communauté des États parties, donc quelque chose qui est fugace, qui peut se déliter en permanence. Moi, je ne serais pas étonnée, par exemple, sauf changement de gouvernement, que le Canada parte du protocole de Kyoto. Pourquoi pas ? C'est vraiment tangent. Alors, si on passe maintenant au cas des médicaments. Les médicaments, ils peuvent être dans le domaine public, tel que je les ai décrits tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse évidemment ici, c'est le cas des médicaments brevetés. Donc là, on est dans le cadre, non pas d'un bien public, mais d'un bien privatif, qui est d'une part breveté, 20 ans, d'autre part, il jouit d'un certificat complémentaire de protection qui allonge la durée dans un certain nombre d'ordres juridiques. Il est lié par une sorte de principal accessoire à ce qu'on appelle les données d'autorisation de mise sur le marché. Et dans le coût de développement d'un médicament, il faut bien voir que le coût de l'innovation est extrêmement important, mais que le coût des données, de l'acquisition des données nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché est presque aussi important. Et que donc, vous avez, dans le coût de l'innovation globale, vous avez un coût qui est à la fois celui de l'innovation pure et celui de la gestion du risque qui va de pair avec l'innovation. Donc vous avez deux coûts et vous avez après un coût de la pharmacovigilance. Or, les données d'AMM font l'objet d'un droit qui n'est pas vraiment de propriété intellectuelle, mais qui est un droit de celui qui a investi dans l'acquisition de ces données et qui va bénéficier d'une certaine protection qui n'est pas tout à fait la même que celle des brevets, mais on ne va pas pouvoir se resservir des données d'AMM avant, par exemple, que le brevet soit donné dans le domaine public, donc on ne va pas pouvoir préparer longtemps à l'avance la fabrication du générique, etc. Donc, grâce à ce brevet et tous ces mécanismes, on peut vendre le médicament à un prix de monopole, entre guillemets, de monopole temporaire, mais de monopole tout de même. Et on va se trouver devant des difficultés du fait du prix extrêmement élevé de ce monopole, difficultés qui sont rendues gérables, disons, dans les pays développés, essentiellement grâce au financement de la sécurité sociale ou des assurances privées qui permettent de prendre en charge le prix des médicaments. Mais s'il fallait compter sur notre solvabilité personnelle, je ne pense pas qu'on serait tellement soigné. Or, l'essentiel des consommateurs potentiels du monde est dans le cas de n'avoir qu'une solvabilité personnelle. Et donc, on a vraiment deux mondes, des mondes du prix pris en charge et des mondes du prix où chacun doit se payer son médicament sur, en plus des salaires qui sont des salaires qui n'ont absolument rien à voir avec le prix d'un traitement. Donc l'essentiel des consommateurs reste effectivement dans une situation de non-solvabilité qui a quelque chose à voir avec l'existence des brevets. Tout ça a conduit à une crise politique forte aux alentours des années 2000, lorsque Médecins sans frontières, l'OMS, l'ONU SIDA, toute une série d'ONG, etc., ont déclaré que cette situation était devenue insupportable. Alors c'est intéressant pour nous parce que cette situation, elle existait depuis très longtemps. Or, tout d'un coup, ça devient insupportable. Et ça, je pense que c'est l'effet d'affichages verbaux du type « bien public mondial »,« la santé bien public mondial », »,« le médicament bien public mondial », »,« accès aux médicaments essentiels ». On affiche comme ça toute une série de mots qui n'ont pas d'impact immédiat, mais qui ont cette faculté de mobiliser les énergies. Et je pense que Marie-Claude Smoot dit ça très bien, en parlant des biens publics mondiaux. Elle dit, ils ont la capacité de transformer un sujet trivial ou un objet trivial, ici c'est le problème des malades insolvables, en objectif éthique d'essence supérieure et universelle. Et c'est vrai que c'est ce basculement qui a été très soudain et très rapide en matière de médicaments qui tout d'un coup va changer la face des choses. Alors, pour essayer de montrer l'efficacité de la mobilisation, je ne dis pas que c'est l'efficacité de l'accord de Doha, c'est une série de mobilisations qui permet d'aboutir en 2006 à la couverture du traitement antirétroviral tel que je la présente ici. D'abord le problème, 95% des personnes séropositives sont dans les pays en développement. Et deux points de repère, il aurait fallu chercher un petit peu avant, mais deux points de repère, en décembre 2003, 400 000 malades bénéficient d'un traitement antirétroviral. En décembre 2006, un peu plus de 2 millions de personnes en bénéficient dans les pays pauvres, soit 28% des malades. Bien évident que ce n'est pas assez, mais que quand vous voyez la différence entre 2003 et 2006, c'est impressionnant, je trouve. Et l'Afrique subsaharienne, sur laquelle se sont concentrés beaucoup d'efforts, n'est pas la moins bien servie, avec 28%. Quand vous regardez, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui sont dans la situation la plus dramatique, avec seulement 6% des malades soignés. Alors, quel est le cadre institutionnel dans lequel on a tenté de faire émerger, d'une part, et de résoudre ce problème de la non-solvabilité de la plupart des malades du sida. D'abord, il a fallu ce concept de médicament essentiel, mais il faut bien se rendre compte que 95% des médicaments essentiels sont non brevetés. Mais ce sont les 5% qui sont liés à des grandes pandémies et qui sont donc extrêmement importants. Donc, médicaments essentiels. Ensuite, il faut une communauté des États qui accepte de se reconnaître dans ce destin commun et ce projet commun. Et ce n'était pas facile, puisque vous aviez des États vraiment très opposés dans leurs intérêts, puisque vous avez des pays innovants et vous avez des pays imitateurs. Pays imitateurs, pour le pays innovant, c'est le diable, puisque c'est celui qui vole, en quelque sorte, l'innovation qui a été faite et protégée. Vous avez des pays qui sont de plus en plus un peu entre les deux, ça c'est le phénomène des pays émergents. Vous avez des pays qui sont producteurs de médicaments, des pays qui sont simplement producteurs de principes actifs, des pays qui sont producteurs de médicaments mais qui ne sont pas producteurs de principes actifs et du coup ils ont du mal à produire leurs médicaments à un prix intéressant. Et vous avez dans ce paysage industriel une externalisation des tâches de plus en plus poussée, puisque maintenant l'industrie pharmaceutique fait réaliser à l'extérieur à la fois des recherches, certaines productions, l'acquisition des données d'AMM, les études cliniques, la distribution, le marketing. Donc l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui... chaque entreprise a des segments, mais finalement, il y a une tendance à une sorte d'implosion du système pour quelque chose qui est très polycentré. Donc, il y a une forte déstabilisation des distinctions. Alors, vous avez des États donc très divergents, et vous avez des organisations internationales qui sont elles-mêmes très divergentes, parce que entre l'OMPI, dont la tâche et de défendre le droit des brevets, et l'OMS, dont la tâche est de supporter le droit à la santé, théoriquement, vous n'avez pas de solution commune possible. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas ce qui est l'équivalent dans le droit interne de la structure interministérielle. Vous n'avez pas de structure interministérielle entre les conventions internationales. Donc vous n'avez pas une convention internationale qui serait chargée de dire « Bon, bah, écoutez, ce coup-ci, c'est l'OMS, et puis la prochaine fois, ce sera l'OMPI, et on va établir des hiérarchies. » Non, là, on est dans un monde d'égo, en quelque sorte. Vous avez des groupes de pression qui sont eux-mêmes en opposition féroce, puisque les groupes professionnels des industries pharmaceutiques ont passé leur temps à plaider contre... les pays qui fabriquaient des copies. Et pourtant, on a réussi à faire ce que Badi appelle la coproduction d'un intérêt universel sur les médicaments essentiels. Alors, avec un enjeu qui, moi, me frappe beaucoup, qui est que, bon, on a d'un côté des entreprises pharmaceutiques qui ont accepté de rentrer dans le jeu, mais d'une manière très particulière en faisant des dons massifs de médicaments, soit à prix très bas, soit totalement gratuits. Et ça peut avoir des effets pervers sur la constitution des industries pharmaceutiques des pays émergents. Parce que si on commence à vous donner les médicaments, vous n'avez aucun intérêt à construire une industrie pharmaceutique qui va, par hypothèse, produire plus cher que ce qui va vous être donné gratuitement. Donc, il y a là tout un jeu qui est extrêmement difficile à mener. Et vous avez néanmoins une retombée que j'ai trouvée assez inattendue, qui est que des tribunaux qui, autrefois, auraient dit que que le droit à la santé était un droit constitutionnel, certes, mais que lorsqu'il n'y avait pas de quoi le mettre en œuvre, eh bien, voilà, c'était un droit inactif, en quelque sorte. Des tribunaux, entre autres d'Afrique du Sud et du Brésil, ont reconnu qu'il y avait une obligation de l'État de procurer des médicaments aux personnes malades. Alors, juste un petit point de vocabulaire. On emploie couramment le mot « générique » pour désigner les copies, dans des sens qui, normalement, devraient être distingués. Un générique, c'est théoriquement un médicament qui est tombé dans le domaine public, enfin, dont le brevet est tombé dans le domaine public, et qui est donc fabriqué de manière licite à partir du domaine public. Or, aujourd'hui, l'utilisation courante qui est faite du terme de générique, ce sont toutes les copies des médicaments, qu'il s'agisse de copies du domaine public ou de copies breveté, licite, on va voir pourquoi. Alors, le problème a été créé ou rendu extrêmement difficile à résoudre pour les pays en voie de développement par l'accord constitutif de l'Organisation mondiale du commerce, qui était lié à l'accord sur les droits de propriété industriel en 1994. À partir de ce moment-là, on est sorti du cadre d'avant 14, dans lequel on avait un double espace juridique, un espace premier qui était la communauté des États innovateurs qui avait reconnu le droit des brevets, des procédés et des produits pharmaceutiques et qui fonctionnait comme un club suivant des règles communes, et on avait un espace second qui regroupait la communauté des États imitateurs, qui faisaient des copies qui étaient légales dans leur espace, puisqu'ils n'avaient pas reconnu la brevetabilité des produits pharmaceutiques, mais qui étaient illégales dans l'espace 1, et donc ils ne pouvaient pas exporter dans l'espace d'origine, évidemment, parce que là, tout d'un coup, ils étaient attraits en contrefaçon. Mais ça a permis le développement d'une industrie autonome par des moyens d'apprentissage autonome, essentiellement par ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. Et du coup, ça a permis un accès aux médicaments non négligeable en Inde, en Jordanie, en Égypte, au Brésil, etc. En 1994, on généralise l'obligation de brevetabilité, alors certes à des rythmes différents selon les types d'États, mais à terme, tous doivent rejoindre l'espace des médicaments brevetés. Et donc, la stratégie des copies légales semble totalement hors la loi, au moins à moyen terme. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est désastreux pour la santé publique dans les États où il n'y a pas de sécurité sociale. Eh bien, c'est exactement le moment où on commence à négocier ce qui deviendra l'accord de Doha. Alors, l'accord de Doha, pour le décrire très simplement, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais prendre le cas le plus défavorable. On a un médicament qui est breveté dans le pays demandeur du médicament, par exemple le Rwanda. Glaxo a breveté au Rwanda telle trithérapie. Le même Glaxo a breveté au Canada la même trithérapie. Donc, le médicament est breveté dans un espace comme dans l'autre. Avant Doha, on n'était pas totalement dépourvu de moyens, en ce sens que le Rwanda pouvait demander une licence non volontaire à Glaxo, mais il était obligé de fabriquer sur son territoire avec ses capacités techniques et financières. Oui, bien évident que le Rwanda n'a pas la capacité technique et financière de fabriquer des trithérapies sur son territoire. En revanche, si l'Inde avait cette capacité, l'Inde n'avait pas le droit d'exporter au Rwanda. Donc on était dans une situation qui était tout de même assez très défavorable pour ceux qui n'avaient pas ces capacités techniques et financières. Après Doha, vous avez la possibilité pour le pays demandeur, le Rwanda, de prononcer une licence non volontaire d'importation. Donc il va neutraliser en quelque sorte le brevet qui est sur son territoire. Et il va proposer à un pays offreur qui a les capacités techniques de production de prononcer une licence toujours non volontaire, mais à des fins d'exportation. C'est-à-dire que le Rwanda va demander au Canada de fabriquer pour son compte des produits qui pourront être exportés au Rwanda, malgré le brevet portant sur le médicament au Canada et au Rwanda. Donc, en fait, on se libère, en quelque sorte, moyennant des redevances qui, jusqu'à maintenant, sont des redevances extrêmement faibles, on se libère du carcan, si vous voulez, du droit des brevets. Avec une condition évidemment extrêmement importante, qui est l'interdiction de réexporter vers le Canada ou la France au prix du Rwanda, évidemment. Donc, d'un point de vue économique, c'est assez intéressant parce que vous avez au sein même de l'Organisation mondiale du commerce, qui est tout de même chargée, qui est le gendarme du libre-échange et de la concurrence, dans une moindre mesure, vous avez au sein même de cette organisation mondiale la création volontaire de marchés séparés, étanches, qui sont conçus en fonction de zones de prix différenciées, ce qui est quand même une atteinte majeure au principe fondateur du droit de la concurrence, où théoriquement, on n'a pas le droit de se répartir les marchés pour protéger des stratégies de prix différenciées. C'est toute l'idéologie des importations parallèles qui doivent égaliser les prix. Donc, on crée des marchés séparés et d'un autre côté, on protège tout de même la zone à prix fort de la zone à prix faible. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir des zones différenciées de prix qui seront des zones légitimes à avoir cette différenciation. Alors, la mise en œuvre de cet accord, parce qu'un accord ne vaut rien sans sa mise en œuvre, la mise en œuvre est très diverse selon les pays. Ce qui montre quand même que le droit international offre des possibilités et que les États s'en saisissent de manière extrêmement différente, voire ne s'en saisissent pas, puisqu'il y a pour l'instant beaucoup de pays qui n'ont pas du tout fait de demande alors qu'ils en ont besoin, mais généralement c'est parce qu'ils ont des dons dans beaucoup de cas. Où vous avez alors là des cas plus graves, me semble-t-il, qui sont ces fameux accords bilatéraux, comme le plus célèbre, c'est l'accord entre les États-Unis et le Maroc, où le Maroc s'engage à ne pas utiliser les flexibilités qui ont été prévues. Ceci dit, c'est tout de même le choix du Maroc de mettre d'abord un certain nombre d'exportations et après la question des médicaments brevetés et donc du droit à la santé de ces populations. Grande ambivalence, me semble-t-il, des dons de médicaments dans ce schéma. Donc je passe très vite parce que je crois que tout le monde connaît les stratégies de dons de médicaments. Elles sont le fait à la fois des ONG, des fondations de certains pays et d'entreprises pharmaceutiques de manière massive. Hein. Chaque entreprise pharmaceutique a des projets oui, j'ai fini, à des projets des stratégies de dons qui sont absolument considérables, mais c'est très ambivalent pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, qui est que ça risque tout à fait de couper l'intérêt des pays émergents, voire des pays en voie de développement qui commencent à avoir des capacités techniques de construire leur propre industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est quelque chose, si on accepte la stratégie du don pour résoudre le problème immédiat, il faut en même temps introduire quand même tout ce qui est nécessaire pour construire l'industrie pharmaceutique future. Alors, les stratégies sont très différentes et j'ai choisi de vous montrer les stratégies indiennes d'une part et brésiliennes d'autre part. En Inde, vous avez un développement de l'industrie de la copie qui est extrêmement ancien. Donc l'Inde a toutes les capacités, a beaucoup d'entreprises qui marchent bien, etc., et qui commencent d'ailleurs à innover. L'Inde a profité de l'intégralité du délai qui lui était laissé par l'OMC, c'est-à-dire qu'elle n'a fait la modification de sa loi sur les brevets qu'en 2005. Elle a institué un système de licence obligatoire automatique dans un certain nombre de cas. Elle a donné une interprétation très restrictive de la notion de nouveauté qui fait d'ailleurs qu'il y a des procès des entreprises pharmaceutiques contre le gouvernement indien pour non-délivrance de brevets, dont on ne sait pas encore ce qu'ils vont donner. Enfin, c'est plaidé en Inde, hein, malgré tout. Donc, les espoirs sont permis. Et l'Inde a tout de suite transposé dans sa loi de 2005 les flexibilités de l'accord de Doha. Donc l'Inde a une stratégie extrêmement volontaire pour continuer à fabriquer ses copies de manière tout à fait licite dans le cadre de Doha. Alors en revanche, la stratégie brésilienne est beaucoup plus difficile à lire. Le Brésil a accepté la brevetabilité des produits pharmaceutiques presque 10 ans avant que ce soit nécessaire. Pression américaine. En revanche, il a fait un droit des brevets assez atypique, où à côté des conditions classiques de brevetabilité il a mis un système d'évaluation sanitaire qui a en fait un effet tout à fait restrictif sur la délivrance des brevets. Là aussi, il y a des risques juridiques, évidemment, qui sont liés à ce choix. Il fait une rédaction assez large de son article sur les licences non volontaires, mais ne l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant, les flexibilités en matière d'importation parallèle, qui pourtant auraient pu être tout à fait utiles s'il avait fait des importations parallèles en provenance d'Inde, par exemple. N'a pas transposé l'accord de Doha, apparemment parce que, dans un premier temps, il n'a pas l'intention d'exporter, il veut simplement fabriquer pour son propre territoire, mais il y a fort à parier pour que ça change dans un avenir relativement proche. En revanche, il a fait une utilisation massive de la menace de prononcer des licences non volontaires, ce qui lui a permis d'obtenir, d'une part, des réductions de prix extrêmement importantes et, ce qui est beaucoup plus intéressant, de déboucher récemment sur une coopération avec l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence avec l'entreprise Merck. Alors, le système de Doha a été très critiqué. J'entends bien les critiques, je ne les partage pas toutes, en tout cas. Deux exemples. D'une part, l'obligation de ne pas réexporter vers les pays développés, qui va de pair avec l'obligation d'organiser une traçabilité, etc., était jugée trop lourd pour les pays en voie de développement. Dans la mesure où les pays qui fabriquent ces copies sont déjà des pays qui ont d'importants potentiels scientifiques et techniques, je pense que ce reproche peut être assez facilement écarté et que d'autre part, il a le mérite d'entraîner les pays dans la maîtrise d'une obligation de traçabilité qui va être une obligation qui va être généralisée à la plupart des produits. D'autre part, je constate que c'est finalement le pays qui avait été le plus critiqué, le Canada, qui a été le premier à délivrer une licence pour exportation à destination du Rwanda. C'est tout récent, hein, c'est le mois d'octobre 2007. Et donc, après qu'on ait dit que le système ne marchait pas du tout, eh bien, il commence à marcher. Et de toute façon, il me semble qu'il a marché avant même d'être mis en œuvre. C'est-à-dire que le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, qui montre qu'on est passé de 400 000 à 2 millions de personnes soignées, je pense que c'est tout à fait une retombée de la mobilisation qui a donné naissance à l'accord de Doha. Donc, pour conclure, la mobilisation est nécessaire et pour ça, la notion de bien public mondial est utile. En revanche, ce n'est pas dans la notion de bien public mondial qu'on trouve les solutions, qu'on trouve le mécano juridique qui permet de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est ailleurs qu'il faut le chercher et c'est dans l'imagination. Voilà, je vous